Parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, la Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode de la Pause Santé, nous allons nous intéresser à la thématique du sommeil, donc l'importance du sommeil et les conséquences des troubles du sommeil sur la santé mentale et physique des personnes âgées. Docteur Dalvit, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs et les auditrices ?
Bien sûr, bonjour à tous. Je suis le docteur Dalvit, neurologue, somnologue et épileptologue. Je travaille principalement au centre du sommeil qui se trouve à la Casamance à Aubagne, où on prend en charge toutes les pathologies du sommeil, dès l'enfant ado jusqu'à l'âge adulte. Voilà.
Pour commencer, j'ai une question qui est assez générale. Avoir un bon sommeil, donc réparateur, pour tout le monde, que ce soit les personnes âgées et les moins âgées, à quel point c'est important et à quel point ça a un impact sur la vie quotidienne ?
Alors, on sait de plus en plus l'importance d'avoir un sommeil de bonne qualité. Globalement, un sommeil de bonne qualité nous permet d'avoir une bonne qualité de vie. Ça se traduit par une bonne performance cognitive, un état émotionnel stable, un état de vigilance qui nous permet d'avoir des capacités optimales. Et avoir un sommeil de bonne qualité, on n'a pas des paramètres en dehors d'une exploration de sommeil qui permettront d'objectivement comptabiliser certains éléments. Mais à l'interrogatoire, c'est les patients, la personne qui peut toute seule se rendre compte si le sommeil est ou pas satisfaisant en fonction de son ressenti et son état global les matins au réveil.
Quand on parle de sommeil, en fait, finalement, on parle aussi des habitudes de vie dans leur globalité. Qu'est-ce que c'est les éléments de notre vie qui ont un impact sur le sommeil et l'endormissement ?
Alors, on sait que notre quotidien, notre vie éveillée va avoir un impact sur la qualité du sommeil. Si on a plutôt des journées compliquées, stressantes, remplies de soucis, le sommeil en général peut être impacté. Et après, il y a des comportements et des habitudes qu'on peut éviter ou préférer pour avoir, on va dire, par conséquence, un meilleur sommeil. Par exemple, l'exposition aux écrans, la consommation d'excitants, d'alcool, certaines habitudes qui peuvent nuire à la qualité de sommeil sans qu'on soit au courant ou qu'on se rende compte.
Donc, on va revenir, je pense, tout à l'heure sur précisément les éléments sur lesquels on peut aussi agir pour avoir un meilleur sommeil. Mais du coup, ça comprend donc l'alimentation, l'activité physique, etc. Tout ça, ça a un impact.
Absolument.
Les personnes âgées, du coup, en particulier, est-ce qu'elles ont des besoins qui sont différents en matière de sommeil que les personnes plus jeunes ? Par exemple, plus ou moins dormir ou bien les siestes, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes ?
Alors, on sait que le sommeil va évoluer depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte avancé. Donc, effectivement, il y a des modifications dans les besoins. Les personnes âgées vont avoir besoin de moins d'heures de sommeil. Il va avoir une modification physiologique dans la qualité du sommeil, la durée. On sait que les personnes âgées ont tendance à avoir un sommeil moins profond, un peu plus fragmenté, tendance à s'endormir plus tôt que des adultes en âge actif et par conséquent se réveiller plus tôt. Du coup, ça peut poser des soucis, se réveille surtout en hiver où il y a encore la nuit. Donc ça peut être problématique. Et après, dans la journée, on sait que les personnes âgées ont besoin parfois de faire des micro-siestes, comme un peu les enfants, les bébés, des micro-siestes réparatrices. Donc effectivement, il y a une modification de sommeil qui est physiologique.
Il y a aussi des personnes âgées, donc surtout les personnes qui nous écoutent, les auxiliaires de vie, elles suivent aussi des personnes âgées qui ont souvent des maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer. Est-ce que ces personnes-là, j'imagine, ont des besoins encore plus spécifiques liés au sommeil ?
Alors, ils n'ont pas plus besoin que quelqu'un qui n'a pas des pathologies. Les problèmes des personnes atteintes des pathologies neurodégénératives, c'est que le sommeil va être une fonction physiologique qui va être très importante de, on va dire, protéger ou de surveiller. Pourquoi? Parce que si on a un sommeil de mauvaise qualité et à cela on va l'associer à une pathologie neurologique, neurodégénérative, les conséquences cognitives vont être beaucoup plus prononcées. Et par conséquence, la qualité de vie, un ralentissement, plus de difficultés à être attentive, les tâches à faire. Donc, le sommeil est important, même si on n'a pas de pathologie. Et quand on a une pathologie neurologique, on sait de plus en plus qu'il faut faire un dépistage des troubles de sommeil, notamment les syndromes des apnées du sommeil, parce que le fait de le traiter, le corriger peut nettement améliorer les capacités cognitives. C'est un élément que les neurologues, je parle de neurologues parce que c'est ma spécialité, on est de plus en plus attentive à les plaintes de sommeil parce que l'effet de s'en occuper, de les corriger peut vraiment changer l'évolution clinique cognitive d'un patient qui a une pathologie neurologique. Tout à fait.
Quand on parle de troubles du sommeil, du coup, on parle de quoi exactement? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça englobe?
Les troubles de sommeil, déjà à la base, un patient qui se plaint des troubles de sommeil, c'est soit un sommeil qui est difficile à obtenir, c'est souvent le cas de l'insomnie, donc des patients qui ont du mal à s'endormir ou que dans la nuit ont du mal à avoir une nuit complète. Donc ça, c'est un groupe de pathologies. L'insomnie, c'est un chapitre. Puis, on a des patients qui, ils ont pas des difficultés à s'endormir, mais que le matin, on réveille, soit qu'ils se réveillent plusieurs fois dans la nuit, sans raison évidente, et le matin, on réveille, constate être fatigué malgré une nuit globalement correcte, et dans la journée, avoir des accès de sommeil avec endormissement non souhaité. Donc dans ces cas-là, ce que on essaie de chercher, c'est donc d'explorer le sommeil pour voir à l'intérieur du sommeil quelle est la problématique. Est-ce qu'il y a, par exemple, un syndrome des apnées du sommeil, que c'est l'effet de présenter à répétition des arrêts respiratoires ou des modifications de la respiration, qui par conséquence vont provoquer une modification de taux d'oxygène. Des éveils infracliniques, on va dire des micro-éveils. Et du coup, le cerveau, malgré que le patient a l'impression d'avoir dormi, à l'intérieur de l'activité cérébrale, on voit que le cerveau est tout le temps perturbé, réveillé par ces modifications respiratoires. Ça, c'est globalement les grandes pathologies du sommeil. Après, il existe aussi des patients qui peuvent présenter des troubles de sommeil comme des troubles de comportement, un sommeil paradoxal. Ça, c'est un type de parasomnie qu'on retrouve souvent chez des patients avec des troubles neurodégénératifs. Ou on peut avoir des autres types de parasomnie comme des cauchemars ou des réveils confusionnels, des somnambulismes. Donc ça c'est des autres manifestations, c'est plutôt rare.
C'est quoi les signes qui doivent alerter une auxiliaire de vie, par exemple, qui suivrait une personne âgée qui a des troubles du sommeil, plutôt, enfin, du coup, qui ont une conséquence sur sa santé et sur son quotidien. Ce serait quoi, du coup, les signes qui doivent alerter l'auxiliaire de vie?
Alors, il faut jamais oublier que les personnes âgées souvent ont des plusieurs pathologies, du coup, plusieurs médicaments, qui peut aussi les médicaments provoquer des troubles de sommeil ou une somnolence, un ralentissement dans la personne. Alors, un des signes assez évocateurs, c'est l'effet de s'endormir dans la journée, dans des situations pas souhaitées. Par exemple, une chose, c'est dormir, faire une petite sieste parce qu'on souhaite, c'est après manger, on souhaite dormir un quart d'heure. Autre chose, c'est s'endormir le matin pendant le petit déjeuner ou après avoir fait...
Pendant qu'on fait des actions, en fait.
Exactement. Ouais. Voilà. Donc, des endormissements dans des situations pas habituelles. Et puis, également, si la personne s'est plaint le matin au réveil d'être fatiguée, malgré avoir dormi correctement, Des autres signes, c'est l'effet de se réveiller plusieurs fois dans la nuit. Souvent, les patients se plaignent de se réveiller plusieurs reprises la nuit, soit pour aller aux toilettes, soit sans raison évidente. Et du coup, cela nous oriente vers une pathologie de type syndrome des apnées du sommeil, souvent.
Quand on remarque, pardon, ces éléments-là, il faut du coup avertir et se tourner vers des soignants, quoi.
Oui, tout à fait.
Médecin
Donc,
traitant, on va dire au début, et puis.
ouais, absolument. Après, il y a des autres signes aussi associés, les maux de tête, le ronflement. Ça, c'est aussi des éléments associés pour les syndromes des apnées du sommeil. Après, il y a des autres situations, par exemple l'agitation la nuit ou des cauchemars. Ça aussi, c'est autre chose qui peut nous orienter vers une pathologie du sommeil. Il faut pas hésiter à en parler à son médecin traitant.
On a parlé tout à l'heure brièvement de ce qui pouvait avoir un impact sur le sommeil, donc notamment l'alimentation, le stress, etc. Qu'est-ce que c'est du coup les bonnes habitudes à prendre durant la journée pour une personne âgée, par exemple, ou bien juste avant le coucher, pour favoriser du mieux qu'on peut un bon sommeil
Les conseils pour avoir une bonne hygiène de sommeil sont plus ou moins les mêmes hein, chez les adultes que les personnes âgées. C'est donc, comme je vous disais, éviter une activité intellectuelle importante parce que ça peut stimuler. Il faut prioriser plutôt des repas légers 2 heures avant l'heure de coucher. Éviter également la consommation de tout excitant comme le café, le thé, l'alcool. En général, on conseille dernier café, dernier thé, quand il y a des troubles d'endormissement, bien évidemment, à partir des 15 heures. Également, chez la personne âgée qui a tendance à se réveiller, s'il boit beaucoup d'eau, éviter les tisanes qui peuvent avoir un effet un peu diurétique et du coup, réveiller le patient la nuit. On conseille souvent, c'est plutôt avoir des horaires plus ou moins réguliers de réveil. Les matins, se réveiller à la même heure tous les jours. Prioriser avoir une activité physique à l'extérieur en contact avec la lumière naturelle les matins. Pas faire d'activité sportive intense le soir et plutôt une activité calme pour favoriser la période, on va dire, d'endormissement ou de début d'endormissement. La lecture, c'est quelque chose qui marche bien. Éviter trop regarder la télé à des heures pas possibles. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas trop d'activité, donc ils perdent un peu les horaires de la vie active. Et ça, c'est quelque chose qui peut déranger le rythme biologique du sommeil. Donc, avoir une routine assez stéréotypée, jour de semaine, jour de week-end, se réveiller plus ou moins à la même heure et se coucher seulement si les signes de sommeil se présentent.
C'est-à-dire que si on sent qu'on va pas s'endormir tout de suite, on va pas trop tôt dans le lit, c'est ça?
Non, exactement. Pourquoi? Parce que l'effet de rester longtemps dans le lit, si on n'a pas de sommeil, on se force à aller se coucher et on n'a pas forcément de sommeil. Ce qui va se passer, c'est qu'on va chauffer le lit. L'augmentation de la température corporelle dérange l'endormissement. Donc, il peut arriver qu'on attend longtemps, que le sommeil arrive. Le sommeil n'arrive pas. On s'énerve. On se réveille. En fait, on coupe cette période qui doit être favorable pour l'endormissement.
Ok, donc quand on sent qu'on va pas réussir à dormir, plutôt on fait une activité calme, sans écran, hors du
Exactement.
lit, et une fois qu'on sent que ça vient,
Exactement.
on va se coucher. Ok.
Exactement.
Écoutez, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose.
Jamais hésiter de réévaluer les traitements médicamenteux. Souvent, les personnes âgées accumulent des médicaments et on ne sait pas trop pourquoi. Et il peut arriver parfois qu'il s'agit des médicaments qui sont pas très adaptés. Et du coup, jamais hésiter à réévaluer un traitement parce que c'est toujours avoir moins de médicaments, surtout pour la personne âgée, pour l'hypatologie.
Ok, ça marche. Donc ouais, ne pas hésiter à se tourner vers l'équipe soignante s'il y a des troubles du sommeil qui peuvent être liés à des médicaments et voir si on ne peut pas
Ouais,
arranger
tout à fait,
les traitements.
tout à fait.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour votre disponibilité. Au revoir.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Cet épisode sur le sommeil touche à sa fin. J'espère que l'expertise du docteur Dalwit vous aura permis d'y voir plus clair sur le sommeil de vos bénéficiaires afin de mieux les accompagner. Vous venez d'écouter La Pause Santé. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de La Pause Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com.